radio adventiste Béthany de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit.
Chers amis, frères et sœurs, membres d'église, amis de la prière, bonjour et bon sabbat à vous tous. Bon sabbat dans le Seigneur, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet ce matin d'être ensemble dans sa maison pour rompre le pain de vie, pour parler en son nom. Je veux remercier d'abord le Seigneur qui a su jeter ses yeux sur moi pour que je sois son théophore ce matin. Je veux remercier aussi la sœur qui a chanté à la gloire du Seigneur. Moi, pas pour fri Seigneur, un yen qui pas vaut un yen. Ce sont de belles paroles, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et nous allons rapidement, il n'y a plus de temps, nous allons rapidement dans l'Épître aux Hébreux. C'est un livre que j'aime beaucoup, très théologique. Nous allons lire ensemble, comme nous venons de le faire, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous allons lire le texte en respectant les ponctuations afin que nous sucions la sève du texte. Hébreux 12, 1 et 2. Il a dit quoi? Nous donc aussi, ne pas courir, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et le verset 2 dit quoi? Ayant, attendez bien, oui, ayant les regards sur qui? M'attendez non, sur qui, frères et sœurs? Sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Le message de ce matin a pour titre « Le marathon de la vie chrétienne ». Est-ce qu'on peut dire avec moi, s'il vous plaît? Le marathon de la vie chrétienne. Je ne dis pas le sprint de la vie chrétienne, mais le marathon, c'est plus profond. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Hébreux. Bon, est-ce que c'est Paul vraiment? Je ne peux pas le dire parce que si je le dis, on va me courir après. Les théologiens vont me courir après parce que théologiquement parlant, on ne connaît pas l'auteur de la lettre aux Hébreux. J'ai passé 5 ans à l'UNA et jusqu'à ma dernière année, on se débattait à l'UNA pour savoir qui est l'auteur de cette lettre, qui l'a écrit. On n'a pas pu le trouver. Pourquoi? Parce que Paul ne s'est pas identifié. Généralement, dans ses épîtres, on voit Paul, apôtre de Dieu. Mais dans cette lettre, il n'y a pas de paternité. Certains théologiens disent que c'est Silas qui l'a écrit. D'autres disent que c'est Apollos, mais là encore, la discussion s'envenime autour de la paternité de l'épître. Et c'est une épître d'ordre du genre épistolaire, n'est-ce pas? C'est une épître d'ordre épistolaire. Il est dit « nous donc aussi ». Je dirais rapidement que ce texte que nous avons lu est un chef-d'œuvre littéraire, dans le fond et dans la forme. Et je vais vous montrer pourquoi. Dans le fond, un chef-d'œuvre littéraire, dans le fond et dans la forme. Je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, le texte débute ainsi. Nous donc aussi. Je vous ai parlé de la paternité. Il n'y a pas de paternité. Mais Ellen White, la servante du Seigneur, d'un conquérant pacifique, dit clairement que l'apôtre Paul serait l'auteur de cette lettre. Mais en théologie pure, on ne connaît pas l'auteur de la lettre aux Hébreux. Non. Mais Ellen White, en nous référant à Conquérant Pacifique, dit clairement que c'est Paul qui l'a écrit. Maintenant, nous allons faire le contexte du texte. Nous donc aussi, nous avons ce membre de phrase, nous donc aussi, nous donc aussi. Maintenant, si ici nous sommes en présence, mesdames, messieurs, de la conclusion d'un raisonnement, nous sommes en présence de la conclusion d'une assertion. Parce que quand je conclue mon raisonnement, je dis donc traduit la finalité de l'assertion, la finalité du raisonnement. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, puisque en grammaire, c'est une conjonction de subordination qui exprime une raison, qui exprime une justification. Nous donc aussi, c'est la conclusion de l'assertion. Et puis l'auteur renchérit pour dire puisque c'est une conjonction de subordination qui traduit la raison, la justification. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parlait? Si vous lisez dans l'Hébreu chapitre 1er, je vais vous demander de lire avec moi, frères et sœurs. C'est important ce que nous allons faire. Lisons ensemble dans Hébreu au chapitre 1er pour voir. Quand j'ai dit au préalable dans mon introduction que c'est un chef-d'œuvre littéraire, j'ai raison. Regardez comment l'auteur débute la lettre. Regardez pour voir comment est-ce qu'il débute la lettre. C'est une sommité intellectuelle. C'est une sommité intellectuelle. C'est un homme qui s'y connaît dans ce domaine. Et quand quelqu'un est orfèvre dans la matière, vous allez voir cela dans ses écrits. Regardez comment il débute la lettre. Regardez pour voir. Après avoir autrefois. Regardez pour voir. Après avoir autrefois. Comment? Encore. À plusieurs reprises. Et de plusieurs manières, parler à nos pères, par qui? Par les prophètes. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui, frères et sœurs? Par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Voyez comment il a introduit la lettre après avoir autrefois. C'est l'esthéticité que j'aime. Non seulement c'est une épître foncièrement théologique, mais l'auteur est très esthétique dans ce qu'il écrit. Les théologiens vous diraient que l'épître de Paul aux Hébreux, je dis Paul, permettez-moi, l'épître de Paul aux Hébreux, c'est une épître, écoutez bien, d'ordre parénétique. Tendez bien ça me dit, d'ordre parénétique. M'a dit ça parénétique, l'a dit. L'autre dit parénèse, l'autre dit parénétique, ou voyons un mot là-dedans qui est parénèse. Parénèse là, cela veut dire que l'auteur commence par un exposé théologique et il conclut par une exhortation. L'auteur commence par un exposé théologique. Quel exposé théologique est-ce que l'auteur a présenté? Est-ce que Paul l'a présenté? Regardez bien. Il a dit au verset 5, regardez pour voir, au verset 5, car auquel des anges, regardez bien, il essaie de nous montrer que Jésus est supérieur aux anges. Amen. Jésus est supérieur aux anges. Jésus qui était dans l'abaissement, tandis qu'il est sur la terre, il s'est abaissé pour un peu de temps. Eh bien, Jésus était inférieur aux anges. Mais ici, tandis que Jésus n'est plus sur la terre, il est au ciel, il est dans la gloire. Paul essaie de nous montrer que Jésus maintenant, il n'est plus inférieur aux anges, mais il est comment? Il est supérieur. Regardez le titre du chapitre, le Fils par lequel Dieu s'est révélé, regardez pour vous, par lequel Dieu s'est révélé est supérieur, nous pas là, est supérieur à qui, frères et sœurs? Aux anges. Donc, l'auteur d'abord, il nous montre la supériorité de Jésus par rapport aux anges. Au chapitre, nous avançons. Au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Verset 13, lisez pour moi. Lisez avec moi, frères et sœurs, ça le dit, verset 13 là. Car, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, bon Dieu, pas jamais dit bagaille ça à un ange, mais il dit au Fils. C'est pour nous montrer que Jésus est supérieur. Nous parlons à qui est d'abord, frères et sœurs? Aux anges. Deuxième exposé théologique. Il dit nous que l'épître est d'ordre parénétique. Cela veut dire l'auteur commence par un exposé théologique et il conclut par une exhortation. Maintenant, nous continuons avec l'exposé théologique. Maintenant, l'auteur, l'apôtre Paul, il vient de nous montrer que Jésus est supérieur aux anges. Maintenant, allons au chapitre 3. Au chapitre 3, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons au chapitre 3 que maintenant il nous dit que Jésus, ce Jésus, il est supérieur à qui maintenant? Nous voilà, il est supérieur à qui? À Moïse. Moïse est un type de Jésus. Mais Jésus est supérieur à Moïse, n'est-ce pas? C'est pourquoi, frère saint, regardez bien, au verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, verset 3, regardez bien, car il a été jugé digne d'une gloire, voilà, non, d'autant supérieure à celle de Moïse. Donc Jésus est supérieur aux anges. Deuxièmement, Jésus est supérieur à qui?
à Moïse, en avancer toujours, en avancer, en aller dans chapitre 5 là. Dans le chapitre 5, l'auteur continue aussi encore avec l'exposé théologique. 1. Jésus est supérieur aux anges. 2. Jésus est supérieur à Moïse. 3. Troisième exposé théologique, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, regardez bien le titre, Jésus est un souverain sacrificateur supérieur à qui? À ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce semblable à celui de Melchisédek subsiste éternellement et implique l'abolition du sacerdoce lévitique. Maintenant, Jésus est supérieur aux anges. Jésus est supérieur à qui, frères et sœurs? À Moïse. Et en troisième lieu, l'auteur nous montre que Jésus, son sacerdoce est supérieur au sacerdoce que nous avions dans l'Ancien Testament. Et l'auteur continue au chapitre 8. En allez, au chapitre 8. Il dit dans le titre, Jésus est un souverain, comment? Sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Je vous ai donné d'abord au fil, dans mon introduction, je vous ai dit que l'épître est d'ordre parénétique. Cela veut dire que l'auteur commence par un exposé théologique et conclut par une exhortation. Maintenant, les versets, les chapitres 1 à 10 présentent l'exposé théologique. Et nous avons la partie exhortative à partir du chapitre 10 et le verset 19. Au verset 19, lisez avec moi. Verset 19, parce que nous avons l'exhortation maintenant. Ainsi donc, regardez bien, verset 19, on nous lit avec. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, attendez non, au moyen de quoi? Du sang de Jésus, une libre entrée dans, ou quoi? Dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, ça le dit. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Vous allez voir que la majorité des verbes utilisés sont à l'impératif. Donc ça, c'est la partie exhortative. La majorité des verbes que nous avons sont dans l'impératif. Regardez bien, verset 20, verset 22, approchons-nous donc. Verset 23, retenons. Verset 24, veillons. Verset 25, n'abandonnons pas. Verset 32, souvenez-vous. Verset 35, n'abandonnez pas. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Maintenant, avant le chapitre 12, l'auteur va mettre un chapitre de transition. Et il va parler de la foi, ce qu'est la foi. Nous avons dit, or la foi, nous disons souvent à l'église, la foi est quoi, frères et sœurs? Est une ferme assurance, nous voilà, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'auteur vient de faire la parenèse, l'exposé théologique, et il conclut par l'exhortation. Avant d'arriver au chapitre 12, il va mettre un chapitre de transition. Et le chapitre de transition, c'est le chapitre 11 qui parle de la foi, n'est-ce pas? Il dit au verset 1, or la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas? Des choses qu'on espère, une démonstration de celles, comment? Qu'on ne voit pas. Et au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour l'avoir possédé, nous voilà, les anciens ont obtenu, comment? Un témoignage favorable. Et au verset 3, comment va le montrer là? Au verset 3, il dit qui ça? Il dit, c'est par la foi, nous parlons, non, que nous reconnaissons quoi? Que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On allait, il a parlé de la foi, n'est-ce pas? Nous savons que en tant que chrétien, que la foi, c'est vision du cœur et ouïe du cœur. Là, tout le monde dit, toute bagaille fini pour vous, la foi dit, fait commencer avant. Voilà. Là, tout le monde dit, car fini, dossier fini. Là, tout le monde dit, ou priez tout côté, ou priez Maranatha, ou priez Bethany, ou priez Hermon, ou priez Salomon, rien pas marché. Là, tout le monde avec raisonnement philosophique, avec calcul scientifique, fini, pour dire, toute bagaille fini, la foi dit, c'est alors que me fait commencer avant, parce que ça me plaît pour vous, au nom de Jésus, ou ça quand même à la gloire de Dieu. Amen. C'est ça la foi. Et l'auteur, tandis qu'il va passer au chapitre 12, il insère ce chapitre de transition, le chapitre 11, pour parler de la foi. Et tandis qu'il donne au chapitre 12, il dit, nous donc aussi. Maintenant, pour comprendre ce membre de phrase, il faut retourner au chapitre 11 pour voir de qui est-ce qu'il t'a parlé d'abord. Dans le chapitre 11, là, mes amis, vous ne pouvez pas le montrer là. Vous saisissez, vous me faites manquer, mourir. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Dans le chapitre 11, là, il dit qui ça, dans le verset 4 là, il dit qui ça, c'est par la foi. En allez, oui, il peut parler d'une galerie, il peut parler d'une galerie d'hommes de foi. Yon galerie d'hommes et de femmes de foi, des hommes qui ont vécu la parole de Dieu. C'est pas moun kap di ki pa fè. Généralement parfois nous l'église a nous hypocrite, n'ap di moun yo fè nous pa jam fè. Et si gon maladie kap ronge l'église jodi a, c'est l'hypocrisie. Moun avant là, la parle avant, la bo belle dan kou vire le soudo. Ou pas qu'on qui est pour faire confiance, c'est comme d'a dit, y aurait ça hypocrite, moun la gien double visage, n'est-ce pas? Moun la gien double figure, figure bas ou devant, hein? L'on vire, c'est pas figure ça qui là. On allez. Dans chapitre 11 là, est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons, frère et soeur? Dans chapitre 11 là, auteur la pral ba yon galerie d'hommes de foi. Yon galerie d'hommes de foi. Qui ça le dit? Dans verset 4 là. Lisez, c'est pas. Nous voilà, nous voilà. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. En allez, vas-y, l'inlette. Dans verset 5 là, ça le dit qui ça encore? C'est pas quoi? C'est par la foi qu'Enoch. En nous capé là. Dans verset 7 là, ça le dit. C'est par la foi. Nous voilà, non que Noé. C'est non yon besoin, non, c'est non yon besoin. En allez, verset 8, ça le dit. C'est par la foi Abraham, des hommes de Dieu. En allez, verset 11, elle dit, c'est par la foi que Sarah. En allez, verset 17, ça le dit, c'est par la foi qu'Abraham. Verset 20, ça le dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Nous voilà. Verset 21, ça le dit encore, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. Verset 22, ça le dit, c'est par la foi que Joseph. Verset 23, ça le dit, c'est par la foi que Moïse. Et verset 24, ça le dit encore, c'est par la foi que Moïse. En allez, verset 27, ça le dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Verset 28, ça le dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque. Et côté m'gal mouria, côté m'gien problème, non, c'est dans verset 30 là. M'dave nous la même. Dans nous lire bien, pour nous lire fort, ça le dit, verset 30, ça le dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le dénombrement. Et mes côtés mourir frette là, verset 31, ça le dit, regardez-vous, ça le dit, il dit, c'est par la foi que Rahab, comment on dit, frères et sœurs? Ça, on capit là. Il a parlé, mais je me perds, c'est comme si je suis sur la lune, je ne comprends pas. On me parle, on me donne des noms des serviteurs de Dieu. On me parle des serviteurs de Dieu, de Moïse, quelqu'un qui a parlé à Dieu face à face. On me parle de Joseph, on me parle de Moïse. On me parle de Sarah, d'Abraham. Mais ici, frères et sœurs, arrivé au verset 31, l'auteur de la lettre aux Hébreux, que les Noirs identifient à Paul, me donne un nom, cite un nom qui n'a pas sa place. Bien-aimé, c'est par la foi que Rahab, qui ça nous Rahab a fait là? Nous voilà. Est-ce qu'on l'a vu? Qui ça nous Rahab a fait là? Rahab était une prostituée? Nous voilà. Est-ce qu'on l'a vu, l'église, frères et sœurs? Rahab était une prostituée. Son nom a figuré parmi les serviteurs et les servantes de Dieu. Ça, non, l'a fait là. Bien-aimé, Gémou nous pensait quoi? T'as jamais sauvé. Il a sauvé à la gloire de Dieu. Gémou nous pensait qu'il était fini. Bon Dieu a passé avec pour l'éternité. Toute grosse chambre m'étendait dans que protestant au chanteur dit, toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand merci. Gémou qui l'a, ça qu'faut là, c'est grâce là qu'faut là. Ou là, pas parce que tu es adventiste depuis 15 ans. Ou là, pas parce que tu es adventiste depuis 30 ans. Mais ou là, c'est par la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par quoi? Par le moyen de la foi. Et l'auteur dit, cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Il croit pas vous-même. C'est un don de Dieu. Qui ça non arabe? Qui ça non arabe a fait là? Rahab la prostituée, une femme qui faisait le commerce de ses charmes sur les pavés de la ville, et son nom est figuré parmi les hommes et des hommes de femmes de foi.
Et puis, m'bral, j'en qui pite rib. Rahab, qui était une prostituée, elle est l'aïeul de Jésus. Elle est l'ancêtre de Jésus. Jésus, l'obga de l'arbre généalogique, côté Jésus sorti, Rahab, c'est grand Jésus. Amen, frères et sœurs. Cela veut dire Dieu pas gardé à l'apparence, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Jésus a dit, il y aura des surprises dans le ciel. Bien-aimé, a bien surprise dans le ciel là. Gen moun nous pensait pas t'a sauver par la grâce de Dieu, l'a sauver pour l'éternité. Et arrivé dans verset dans chapitre 12 là, m'a gagne pile devant dans chapitre 12 là et qu'on a l'elfine parler de galerie ça, d'homme de foi ça et puis il dit nous donc aussi. N'oubliez pas que le titre du message c'est le marathon de la vie chrétienne. Les versets 1 et 2 d'Hébreux chapitre 12, yo traduit comme une course de la foi. Chrétien li engagé dans une course et nous chaque qui la matin, c'est ce que je suis venu vous dire. Vous êtes engagé dans un marathon. Vous êtes engagé dans une course et le but final, l'objectif final, c'est de voir Jésus de Nazareth. L'objectif final n'est pas d'aller aux États-Unis. L'objectif final n'est pas d'avoir, n'est-ce pas, n'est pas de faire le tour du monde. Mais l'objectif final, c'est de voir Jésus. Jésus a dit dans Apocalypse 3, celui qui vaincra, je le ferai comment? Asseoir avec moi. Où ça? Sur mon trône. Donc l'objectif final, c'est voir Jésus. L'auteur, à travers cette lettre, il nous invite. Il nous invite à faire deux choses. Regardez bien. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés. Environnés de qui? Environnés de cette galerie d'hommes et de femmes, de foi, qui ont couru la course avant nous. Ces hommes-là nous ont précédés dans la course, ils ont couru avant nous et nous avons sous nos yeux la galerie de ces hommes et femmes de foi. Nous avons leurs exemples sous nos yeux et voilà pourquoi l'auteur dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de cette grande nuée de témoins, il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Restons. Nous pas là, restons quoi? Tout fardeau. Nous pas là. Deuxièmement, et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons deux choses à rejeter. Moun Bethany, captain de matin, ou gen deux bagailles pour jeter. Premier bagaille, ou gen pour jeter, puisqu'on gen galerie d'hommes et de femmes de foi, ça cap gade ou. Premier bagaille ou gen pour jeter, c'est qui ça lié? C'est le, nous parle là, c'est le fardeau. Rejetons tout fardeau. Le mot utilisé par l'auteur de la lettre aux Hébreux pour traduire fardeau. Permettez-moi de faire un peu de grec. Le mot utilisé par l'auteur pour traduire le fardeau. Merci. Le mot utilisé par l'auteur ici dans cette lettre pour traduire, pour parler du fardeau. Le fardeau ici, il pas signifie péché. Le fardeau ici, à travers le mot grec utilisé par Paul, c'est un bagage que on fait en catimini. On bagaille wa fait en cachette qui pa yon péché. Tendez bien oui, on bagaille wa fait pour me traduire le mot grec là. On bagaille wa fait en cachette qui pa yon péché mais qui pa rapproché au de Dieu. Nous voilà. On bagaille wa fait que ancien pa ka wè, pasteur pa ka wè, maman pa ka wè, papa pa ka wè, mais bagaille ça pa rapproché au de Dieu. Au lieu de l'approcher au de Dieu, il faut faire bac dans vie chrétienne nous. Et la question que j'ai pour vous ce matin, cette question est individuelle et personnelle. Qui ça va faire personnellement dans la vie que moun pa wè, mais qui éloigne de Dieu? Qui ça dans la vie ou a fait matin que moun pa wè, qui pas rapproché de Dieu? La première chose à rejeter pour courir la course, parce que en réalité, Paul avait une idée des Jeux Olympiques. Actuellement, il y a les Jeux Olympiques. Mais Paul, à l'époque de Paul, Paul avait une idée des Jeux Olympiques et il a tiré cette image des Jeux Olympiques pour la transposer sur le plan spirituel. Voilà, il dit, rejetons tout fardeau. Yon bagay que wap fait, qui pas empêché, mais qui pas rapproché de Dieu. Et la deuxième chose à faire, c'est quoi? À rejeter, c'est quoi, frères et sœurs? C'est le péché. Parce que le map dit péché là, il y a des gens qui pensent à adultère, comme le cas de David. Il y a des gens qui pensent à la boulimie. Il y a des gens qui pensent à la fainéantise. Il y a des gens dans la salle qui pensent au ragot. Il y a des gens dans la salle qui pensent à la fornication. Ce n'est pas ce péché dont on parle dans le texte. n'est pas un péché personnel que vous auriez commis en secret. Quand l'auteur vous dit « rejetons tout fardeau et le péché ici dont il est fait mention, c'est un péché qui nous concerne tous. C'est un péché qui concerne l'Église. Et puisque au chapitre 11, on parlait de la foi, eh bien le péché ici dont il est fait mention, c'est pas le péché que tu commets en cachette, le péché dont il est fait question ici, il est fait mention ici, c'est l'incrédulité. Quel péché est-ce, frères et sœurs, c'est quoi ? L'incrédulité. M'braldou pour qui ça ? L'incrédulité, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que il est des gens qui se disent être chrétiens, qui se croient être chrétiens, qui croient, des chrétiens qui disent qu'ils courent la course vers Jésus, mais qui n'ont pas la foi dans le Seigneur. Bien-aimé, il y a des gens qui l'église, qui n'ont jamais de foi dans mon Dieu. Il y a des gens qui l'église, qui n'ont jamais fait mon Dieu confiance. Il y a des gens qui l'église, le bagage à la marée pour lui, l'algade de Yoa, ça a passé. Il y a des gens qui l'église, qui pas mettre assurance li dans mon Dieu. Le péché ici en question, c'est l'incrédulité. Vous courez la course, mais vos yeux ne sont pas rivés sur Jésus. Alors que, au verset 2, l'auteur nous dit, frères et sœurs, de faire quoi? Tandis que nous courons, il dit, attendez, les regards, sur qui est-ce, frères et sœurs? Sur Jésus. Et il dit, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a fait quoi? Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, écoutez bien. L'auteur dit, ayant les regards, la version Louis II, cette version ne fait pas justice au texte. Pourquoi je le dis? Cette version ne fait pas justice à la pensée de l'auteur. Quand je prends le texte original, Louis II, qui est docteur en théologie, il traduit ce verset par « ayant les regards sur Jésus ». Mais quand je prends le texte grec dans son essence, l'expression est mal traduite. Quand l'auteur dit « ayant les regards », c'est parce qu'il veut dire vraiment. Mais le vrai sens, c'est « portant les regards au loin ». Attendez bien, oui, vrai sens là. « Portant les regards au loin et vers Jésus ». Portant les regards au loin. Gen moun les regarder, c'est point nan yo wè. Gen moun les regarder, c'est monde nan yo regarder. Gen moun les regarder, c'est bien matériel yo gen yo regarder. Gen moun les regarder, c'est famille, son travail, son job. Gen moun les regarder, son visa, son belle machine yo gen yo regarder. Gen moun les regarder, son belle madame yo gen yo regarder. Mais matin, texte a dit nous, portant les regards, m'attendez, loin et vers qui est-ce? Vers Jésus. L'objectif final, frères et sœurs. La finalité de la course, c'est de voir Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? C'est pour cela que vous êtes là ce matin. Vous êtes là parce que vous voulez voir Jésus. Vous aimeriez voir Jésus. Il y a ce chant qui dit, voir mon sauveur, comment? Face à face, n'est-ce pas? Voir Jésus dans quoi? Dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, c'est la finalité de la course. Mais pour que nous atteignions cette finalité, il faut courir libre de tout fardeau et léger de tout péché. C'est pour nous jeter péché. C'est pour nous jeter fardeau. Tout ça qui a un péché, ouais Jésus. Ça qui a un péché, allez dans le ciel là. C'est pour jeter, c'est pour dire, quand t'as sauvé, faut me sauver au nom de Jésus. D'accord, ça, frères et sœurs? Le chef et le consommateur de la foi. Il y a le mot consommateur qui a subi une évolution diachronique, un gros mot, excusez-moi, diachronique, dia à travers, et chronique, chronos à travers l'histoire. Donc le mot ici, ce n'est pas consommateur, mais celui qui est le chef, cela veut dire celui qui a mis en nous la foi. C'est ça Paul le dit, celui qui a mis en nous la foi. Et vous allez voir avec moi que le verset 2 est traversé par le renoncement. Jésus a renoncé à la joie qu'il avait au ciel. Il a renoncé à la joie, n'est-ce pas? Le renoncement, dans Matthieu 16, verset 24, que dit Jésus? Jésus dit, n'est-ce pas? Si quelqu'un, nous voilà, veut venir, comment? Après moi, nous voilà, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de quoi? De sa croix et qu'il... Non seulement le verset est traversé par le renoncement, mais le verset aussi est traversé par la souffrance de Jésus. Jésus a souffert la croix. Jésus a souffert la croix, cette mort ignominieuse, cette mort odieuse. Il est dit dans la théologie des Juifs, maudit soit celui qui est pendu au bois. Les Juifs croyaient que Jésus était frappé de Dieu, frappé par son Père, parce qu'il est pendu à la croix, il est pendu sur le bois. Donc celui-là qui est pendu sur la croix ne saurait être le Fils de Dieu, parce qu'il est frappé par Dieu. Foutaise. Ils sont passés à côté du texte, de la compréhension de la théologie. Bien-aimé, Jésus a souffert la croix. Et je vais vous demander de lire avec moi dans Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, versets 5 à 11. Parce que nous avons ici dans ce texte l'hymne de la kénose, l'hymne de l'abaissement, la kénose de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous allons voir ce que dit l'apôtre. Dans Philippiens 2, est-ce qu'on peut lire avec moi? Versets 5 à 11, on nous lit ensemble, ça le dit. Ayez, m'attendez, ayez en vous, quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, lequel? M'attendez, frères et sœurs, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant quoi? Une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Mais attendez, non, il s'est comment? Humilié. Comment ça le fait? Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Aurélie, tandis que Jésus descend, c'est ça Aurélie, quoi, dans l'optique, pas dans l'optique, est-ce que c'est ça? Oui, optique, me rappelez-moi. Il aurait laissé ça tube en nu, ou descendre et pour remonter. Ou descendre ou remonter. Maintenant, Jésus s'est humilié, se rendant obéissant, même jusqu'à la mort de la croix, et puis qu'on a le droit de remonter. Parce que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Ou d'accord, ça, frères et sœurs. Bon Dieu dit, Bible a dit, l'Éternel fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Maintenant, Kounia, puisque Jésus acceptait des sons, il peut monter Kounia. Voilà. Et ça fait dans verset 9 là. Paul dit, c'est pourquoi. Voilà. C'est pourquoi. En créole, c'est peut-être ça même. C'est pourquoi Dieu, nous voilà, l'a souverainement élevé. Et lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. On va dire amen. Vous avez des sœurs. L'on dit Jésus, c'est pour s'être cassé à la gloire de Dieu. Amen. L'on dit Jésus, c'est pour démon qui a persécuté la courir au nom de Jésus. L'on dit Jésus, c'est pour qu'on la casse, parce que dans le nom de Jésus qui est puissant, c'est ce qu'on a, ça, frères et sœurs. Nous voilà, nous voilà quoi ça. Dans le nom de Jésus qui est puissant, frères et sœurs. C'est peut-être ça même. Bon Dieu élevé le souverainement. Mes amis, baguette en matière, on va le finir. Et puis, tu vois, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Verset 10, pour qui ça? Mes finalités, afin qu'au nom de Jésus, tous ceux nous fléchissent, qui côté, frères et sœurs? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On va dire amen pour ça, frères et sœurs. Et verset 11, on dit, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand amen, on fait là, frères et sœurs. Sans bam da descendre, même pas qu'à toucher encore, non, même. Sans bam descendre. Parce que le nom de Jésus, c'est le plus beau nom qui existait. On va d'accord à ça, frères et sœurs. L'on dit Jésus, c'est pour Satan tomber à la gloire de Dieu. Afin qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchissent. Les théologiens appellent ces textes l'hymne de la kénose, l'hymne de l'abaissement. Jésus s'est abaissé. Bien-aimés, frères et sœurs, l'église aujourd'hui a gagné 4 maladies. Président Jovenel Moïse, avant sa mort, il avait dit que le pays a 5 problèmes. Mais moi, ce matin, je ne suis pas président de la République, je suis pasteur, un simple pasteur adventiste. Je vous dis que l'Église a 4 problèmes. Combien de problèmes est-ce dit? Premier problème de l'Église là, c'est le pharisaïsme. Qui est le problème de l'Église là? Pharisaïsme. C'est-à-dire des gens à l'église qui reproduisent le caractère des pharisiens. Des gens qui l'église là, tout ça y a fait, c'est pour y faire mon ouais. Pour qu'à dire frère, tel, prêt, bon Dieu. frère tel compte bon Dieu, frère tel se serviteur bon Dieu, alors qu'en réalité, pas grand rien sérieux. Et puis, gros problème, pharisiens, ils sont hypocrites. Bien aimé, l'hypocrisie a mouché l'église là, oui, je dis. Gen moun ki ri avon, c'est pas ril rivre non, ou pas là, ou pas comment ça me dit là. Moun nan ri avon, c'est pas ril rivre, c'est zam ni la montre ou, parce que quel pari avon. De Paul dit j'étais en péril parmi les faux frères. Gen moun l'église a son faux frère lié. Sou la ge korbali, a fait gade ou. Deuxième maladie l'église la gagné. Après l'hypocrisie, le pharisaïsme. Deuxième maladie l'église là, c'est le conformisme. Deuxième maladie, c'est qui ça lié? Le conformisme. Mon a conformé là tout ça qu'a fait à la lettre. C'est la lettre de la loi. Mon a conformé. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de spirituel. Troisième maladie, l'église l'a gagné. C'est le légalisme. Troisième maladie, frères et sœurs? Légalisme. Ma fonti, récapitulation. La première maladie, c'est quoi? Je n'entends pas. C'est quoi? Pharisaïsme. La deuxième maladie, c'est quoi? Le conformisme. La troisième maladie, c'est quoi? Le légalisme. Mon légaliste. Conforme aux doctrines. Conforme. Bien-aimé, je vais vous dire une chose ce matin. Être adventiste ne veut pas dire que tu es chrétien. Nous voilà. Être adventiste ne veut pas dire que tu es chrétien. Dieu ne va pas venir seulement rechercher les adventistes. Moi, je suis adventiste. J'aime l'adventisme. Mais j'ai pu voir à travers mes expériences qu'au-dessus de l'adventisme, je dois être chrétien à la gloire de Dieu. Ou qu'adventiste ou pas chrétien. Parce que avoir tes noms inscrits sur les registres de l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Et voilà pourquoi j'ai aimé cette déclaration de George Knight, un homme que j'aime beaucoup. Et ma prière, bon Dieu, ma l'étudiant nous, mon carouen l'exa. Il me dit, être adventiste ne veut pas dire que tu es chrétien. Avoir ton nom sur les registres de l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Nous pouvons connaître toutes les doctrines et ne pas connaître Dieu. Et il dit pour terminer, notre adventisme doit être baptisé pour devenir du christianisme à la gloire de Jésus. Qu'on t'amène dans faire là, frères et sœurs. Quatrième maladie, l'église là. Il y aurait le formalisme. Qui quatrième maladie, frères et sœurs? Il y a un attachement excessif, vous savez, excessif aux formes, aux façons extérieures. Mon nom montre une apparence de piété, mais au fond, pas de chrétienté. Bien-aimés, sœurs et frères, vous qui êtes là ce matin, nous sommes invités à courir la course en ayant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Courons libres de tout péché et libres de tout fardeau pour aller vers Jésus. Jésus, frères et sœurs, qui est la finalité de la course. Bien-aimés, on raconte l'histoire d'un pasteur qui voulait préparer son sermon. Et il ne voulait pas être dérangé par sa fille de 5 ans. Qui voulait à tout bout de champ le déranger, il voulait avoir une bonne inspiration pour préparer le sermon. Et bizarrement, il a trouvé sur son bureau une carte géographique, une carte de géographie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré la carte. Et il a demandé à sa fille, chérie, je vais jouer avec toi. Je vais répondre à toutes les questions que tu auras à me poser une fois que tu auras réparé la carte géographique. Une fois que tu auras terminé, tu vas venir à mon bureau et en tant que ton père, je vais répondre à toutes tes questions et je vais jouer avec toi. Et le papa disait en lui-même, mais comment est-ce qu'elle arriverait? Elle ne va jamais y arriver parce qu'elle ne sait rien dans la cartographie, elle ne sait rien dans la géographie. Et le père ricanait au sujet de sa fille parce qu'elle savait que c'était une gageure, c'est-à-dire une peine perdue d'avance. Et bizarrement, à son grand étonnement, En moins de cinq minutes, la fille lui revint dans son bureau avec la carte bien alignée. Tous les continents et tous les pays à leur place. Le père, surpris et dérangé, demanda à sa fille, « Mais Seigneur, ma chérie, tu ne sais quoi que ce soit dans la géographie. Comment as-tu pu réparer la carte au point que tous les pays et tous les continents soient à leur place ?» Et la fille de 5 ans sourit et répond à son père, « Papa, l'image de Jésus est derrière la carte. Ce que tu ne savais pas. Et je savais que si j'ai Jésus au bon endroit, le monde entier serait en parfaite forme. Qu'on va dire amen pour ça, ouais, c'est ça. L'image de Jésus est derrière la carte. Et je sais que si j'ai Jésus au bon endroit, le monde entier serait en parfaite forme. Et le père, à travers la réponse donnée par sa fille, il a pu trouver une bonne inspiration et il a rédigé un puissant sermon. Et le sermon qu'il a rédigé a pour titre « En plaçant Jésus au bon endroit ». Qu'on t'amène dans là, frères et sœurs. En plaçant Jésus au bon endroit. Bien-aimé, je suis venu vous dire ce matin que la finalité de la course est Jésus. Placez Jésus au bon endroit. Retirez vos yeux sur les choses du monde. Je vous ai dit que le texte est mal traduit parce que en réalité, le texte n'est pas fixer les yeux sur Jésus, mais c'est porter les regards au loin et vers Jésus. Cela veut dire que vous devez fixer, vous devez détourner les yeux des choses de ce monde, des bagatelles de ce monde, des avantages de ce monde pour les fixer vers Jésus. Jésus a dit, retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prennent ta couronne. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.